que l'Église soit vraiment l'Église, tout simplement. Parce que l'Église est un corps vivant dans lequel chaque membre a sa place pour le service et le bien de tous. Et c'est vrai aussi pour l'homme et la femme, qui sont l'un à l'égard de l'autre, enfin, qui devraient être l'un à l'égard de l'autre, dans un souci de service mutuel et de bien mutuel. Alors, je ne vais pas lire avec vous, je vous ai mis sur la feuille de route, pour vous donner un peu de travail après. Hein. Vous pourrez lire vous-même, si on n'a pas le temps de le faire, les deux textes de la page 3, et puis même aussi le début de la page 4, qui sont dans la suite de ce qu'on a vu avant. Vous voyez, quand on reste coincé dans ce débat sur l'accès au sacerdoce, finalement, on entretient, c'est ce que le cardinal Sarah montre très bien, et le pape François aussi dans le document sur l'Amazonie, c'est qu'en fait, revendiquer l'accès à l'ordre sacramentel, au ministère sacré, c'est encore, finalement, être complice d'un modèle clérical. Vous voyez, c'est entretenir l'idée que la seule chose intéressante et valorisante dans l'Église, c'est le prêtre, ou l'évêque, ou le pape. Hein. Et que donc, tant que la femme ne pourra pas être diacre, prêtre, évêque et pape, elle n'aura pas accès à ce qui est important dans l'Église. Donc en fait, la revendication elle-même reste tributaire d'un modèle de l'Église qui est clérical. Comme si le plus important dans l'Église, c'était de pouvoir être évêque ou prêtre. Et en fait, il faut absolument sortir de ce modèle-là, hein, comme le pape François le fait quand il dit « mais l'icône de l'Église, c'est pas le prêtre, c'est pas l'évêque, c'est pas Pierre. Pourtant, sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Mais l'icône de l'Église, ça n'est pas le prêtre, ça n'est pas le ministère sacré. L'icône de l'Église, c'est Marie, c'est la femme. Parce que l'Église est épouse du Christ époux. Donc la figure même de l'Église est féminine. Alors le pape, je vous avais cité la dernière fois des extraits d'un entretien avec des religieuses, mais il le répète très régulièrement, il dit « mais l'Église est féminine, c'est la Église. » Et donc le signe de l'Église est un signe sponsal féminin, de réponse de foi, d'espérance et de charité au Christ époux qui se donne et se livre pour elle. Donc la figure de l'Église, c'est Marie, et donc la femme. Et donc tant que la femme continue à revendiquer le sacrement, l'ordre, en fait, elle est elle-même tributaire de ce modèle clérical, comme si la chose première et plus importante dans l'Église, c'était le prêtre, le sacrement de l'ordre. Non, la chose première dans l'Église, c'est le baptême ouvrant le chemin vers la sainteté. Le sacerdoce royal des baptisés, que Vatican II a magnifiquement remis en valeur, l'Église, ce sont les baptisés. L'Église, ce n'est pas les prêtres. Il y a un ordre hiérarchique, il y a un ordre sacramentel qui est au service du sacerdoce royal des baptisés qui constitue l'immense majorité de l'Église. Et ce qui compte effectivement dans le royaume, c'est d'être des saints. Donc ce qu'il faudrait penser, donc on a vu hein, tout à l'heure, effectivement, l'ordre, l'économie de la révélation fondée sur le symbolisme, les signes, l'ordre sacramentel reprenant l'éloquence de ces signes, l'ordination sacrée, etc., réservée aux hommes parce qu'il y a cette dimension du signe, n'est pas à penser en ordre de droit, de supériorité, de compétence, mais de service du corps de l'Église, de service du bien de tous. Par contre, ce qu'il faudrait penser, c'est tout le chemin encore à parcourir pour que les femmes rendent dans l'Église, remplissent dans l'Église la mission, la vocation irremplaçable qui est la leur et qui est encore bien trop peu reconnue, entendue. Reconnue, c'est encore revendicateur, mais bien trop peu vécue, tout simplement, hein, peut-être. Et donc ce qu'il faudrait penser éventuellement, c'est la reconnaissance d'un ministère féminin, un certain ministère, mais sous une autre forme, vous voyez, qu'une ordination. Là, vous avez aussi des réflexions théologiques en cours, intéressantes, hein, sur le fait qu'on peut, sous un autre mode que le sacrement qui confère l'ordination, hein, penser une mission, la reconnaissance d'une diaconie, d'un ministère, d'un service d'Église stable, reconnu par l'ensemble du peuple chrétien, confié à une femme. Vous voyez, pour prendre un petit exemple... où j'ai mis ça. inspirer, c'est ce qu'on a connu dans l'Église, comme dans les ordres religieux, hein, pour la bénédiction d'une abbesse. Pendant des siècles, les abbesses bénédictines dans l'Église ont porté une étole diaconale. Il y avait un rituel de bénédiction de l'abbatiat qui n'est pas une ordination, qui n'est pas un sacrement, hein, mais qui était la reconnaissance d'une autorité spirituelle au service d'une communauté. Voilà un exemple, vous voyez, sur le modèle duquel peut-être quelque chose serait à inventer pour reconnaître, vous voyez, enfin, rendre visible un service que la femme peut rendre et qui aujourd'hui est déjà rendu discrètement, sans reconnaissance particulière, mais qui pourrait être l'objet non pas d'une ordination, mais d'une bénédiction particulière, par exemple. Une autre lumière qu'on pourrait creuser dans la révélation pour comprendre ça, je m'adresse en particulier aux étudiants du Studium qui vont faire le séminaire sur l'Évangile de Luc cette année, on va rentrer bientôt dedans. Saint Luc met magnifiquement en lumière, vous voyez, en face à face, pas d'opposition, mais plutôt en vis-à-vis, en complémentarité, le groupe des 12 institués, hein, choisis par Jésus comme apôtres, qui vont être dépositaires du ministère apostolique. Vous avez un groupe d'hommes dans l'Évangile de Luc, et en vis-à-vis, vous avez un groupe de femmes qui n'est pas institué comme les 12, mais qui en fait est présenté par Saint Luc comme le modèle parfait des disciples. Un modèle, j'allais dire, beaucoup plus exemplaire et réussi que le modèle masculin. Je vous donne deux, trois références, mais vous pouvez creuser. Vous avez le début du chapitre 8 de Saint Luc, hein, où il est dit, de manière brève, mais théologiquement très dense, qu'un groupe de femmes accompagnait Jésus depuis la Galilée, hein, et puis va pas seulement l'accompagner depuis la Galilée, mais lui être fidèle jusqu'à la croix, là où les hommes vont briller par leur absence. Le groupe des femmes reste fidèle, et c'est encore elles qui vont être les premières au sépulcre, et c'est elles qui vont être envoyées annoncer la résurrection aux apôtres. Hein. Donc vous avez la valorisation chez Saint Luc d'un service féminin, et je vais employer le mot que Saint Luc emploie, qui est un service au sens fort, hein, une diaconie. Je ne suis pas en train de dire que les femmes devraient être diacres, hein, mais c'est une réflexion, mais c'est le verbe grec, hein, qui a donné diacre en français, diakonein, qui veut dire servir. Eh bien, ce mot-là, il est employé dans Saint Luc plus de fois au sujet des femmes qu'au sujet des hommes. Vous avez donc en Luc 8, où on vous dit que les femmes suivent Jésus depuis la Galilée, et puis elles le servent. Elles servent pas seulement Jésus d'ailleurs, mais aussi les 12. Hein. Elles les servent de leurs ressources, elles les assistent de leurs biens. Alors évidemment, en français, on entend ça un peu comme, bah oui, c'est les bienfaitrices du groupe, elles leur apportent les paniers repas. C'est pas ça. C'est un verbe. Vous voyez, la diaconie dans l'Église, c'est vraiment un service au sens fort. Le service du corps entier, c'est pas juste rendre un service. C'est servir, c'est être dans une attitude de disciple du Christ, quoi, un engagement de toute ma personne au service du Christ et de son Église. Donc le mot est employé pour ce groupe des femmes, hein, alors que c'est pas dit pour les 12. Il est employé aussi, je crois que c'est au chapitre 10, où vous avez la double figure de Marthe et Marie. Et il nous est dit que Marthe servait, c'est pareil, c'est le verbe diakonein. Elle sert au sens fort, elle n'est pas juste dans ses casseroles, même si Jésus lui fait un reproche. N'empêche que Luc emploie le verbe servir. Et vous avez donc Marie, elle, qui est assise au pied de Jésus, qui écoute sa parole. Vous rassemblez les deux, vous avez le modèle du parfait disciple, celui qui est au pied de Jésus, présent pleinement à lui, qui écoute sa parole et qui le sert avec tout son amour. Donc ces deux femmes qui sont aussi présentées par Luc comme le modèle de la sequela Christi, de la vie du disciple, etc. Donc c'est intéressant de creuser ça aussi dans l'Évangile. Alors cinq domaines, je soumets ça à votre réflexion, hein, c'est pas des conclusions achevées, hein, mais cinq domaines dans lesquels aujourd'hui la présence des femmes pourrait être dans l'Église davantage vécu, valorisé, hein, mis au service de tous. Je vous les cite et puis on peut reprendre un par un. Vous avez évidemment le domaine biblique et théologique, incluant à la fois la recherche, mais aussi l'enseignement, la participation dans la formation. Donc, le domaine biblique et théologique, le domaine méthodologique, on pourrait dire pédagogique ou méthodologique, disons. Le domaine spirituel, au sens, vous voyez, de l'accompagnement spirituel ou d'un enseignement portant sur la vie spirituelle. Vous avez la pastorale au sens large, hein, présence des femmes dans la vie pastorale. Et puis vous avez les responsabilités administratives. Alors on pourrait, dans chacun de ces domaines, essayer de voir ce qui a déjà bougé, ce qui pourrait bouger, ce qui devrait bouger. Quelques éléments dans chacun des domaines. Donc, le domaine biblique et théologique, on pourrait dire que depuis, dans l'après-concile, hein, après Vatican II, ça va avec le progrès des femmes dans la société, hein, aussi l'accès des femmes à l'éducation, à l'enseignement. Vous voyez, quelqu'un comme Edith Stein, elle n'a jamais pu avoir une chaire de philosophie, elle avait trois fois les compétences nécessaires, et elle n'a jamais pu. Parce qu'à son époque, il n'était pas envisageable qu'une femme soit titulaire d'une chaire de philosophie en université. Bon, la société a bougé sur ce point. Et donc, dans l'Église aussi, par conséquent, on assiste depuis la fin des années 60 à une entrée des femmes, une présence, encore limitée peut-être, mais une présence des femmes, à la fois dans le domaine de la recherche biblique, théologique. Vous avez des femmes exégètes. Jusqu'à peu de temps, le domaine de l'exégèse était exclusivement masculin. C'est dommage, pas parce que les femmes étaient privées d'eux, mais parce que du coup, l'Église était privée de l'apport des femmes qui vont avoir sur la parole de Dieu un autre regard, qui vont s'intéresser à certains livres de la Bible ou à certaines thématiques ou à certaines manières de raconter de la parole de Dieu que les hommes ont négligé parce que nous sommes complémentaires. Donc on assiste là depuis une vingtaine d'années, surtout depuis 30 ans, à un enrichissement extraordinaire des études exégétiques, bibliques, par des articles, des ouvrages, des enseignements publiés par des femmes qui ont, des yeux différents, hein, sur la révélation. Et qui sont aujourd'hui vraiment reconnues comme telles, hein, à compétences reconnues à égales avec leurs homologues masculins. Et donc une mise en lumière de trésors de la parole de Dieu qui étaient restés en attente. Une autre illustration de la parole différente, complémentaire des femmes, c'est par exemple dans le domaine de la morale sexuelle. Vous voyez, les documents écrits, les documents du magistère, sont souvent des documents écrits par des hommes, évidemment. C'est des documents écrits par des prêtres, par des évêques. Quel dommage que des femmes ne soient pas davantage consultées, écoutées, prises en compte pour la formulation de certaines vérités qui touchent à la morale sexuelle et familiale, sur lesquelles il y a des choses qu'elles-mêmes, elles seules sauront dire. Je vous donne un exemple. La déclaration d'Onum Vitae. Par exemple, quand l'Église parle sur ce qui est permis, pas permis, licite, par licite, pas licite, dans l'ordre du recours à des méthodes, par exemple de procréation médicalement assistée. Très souvent, et c'est ça que les personnes reprochent à l'enseignement de l'Église, c'est que souvent on en reste à licite, pas licite. Si les femmes étaient davantage consultées, quant au recours à ces méthodes, les femmes sont concernées différemment dans leur corps, par les questions de procréation médicalement assistée. Une femme dirait les choses différemment, pas seulement en termes de permis par l'Église ou pas permis par l'Église, mais en termes de bien des personnes, de bien, de respect, ce qui me fait du bien, ce qui va dans mon sens, ce que je porte dans mon corps, comment ça me violente ou comment ça m'élève. Une femme dirait les choses différemment. Et peut-être que le langage de l'enseignement de l'Église serait bien mieux perçu, parce que plus adapté peut-être, plus humain, plus rejoignant le concret des personnes, si la rédaction était assumée de concert, voyez, par voilà, en prenant en compte peut-être certaines idées, certaines formulations qu'une femme dans le domaine de la morale notamment formulerait différemment. C'est vrai aussi pour le dogme, mais je trouve que dans le domaine de la morale sexuelle et familiale, c'est évidemment évident. Alors, dans la suite, dans le prolongement du domaine biblique et théologique, il y a évidemment tout le domaine méthodologique. Il y a le contenu, on pourrait dire la vérité ne change pas dans son contenu. Bien sûr, on peut, en exégèse, en théologie, on peut creuser des aspects du mystère de la foi qui étaient moins creusés. La femme va aider à ça. Mais il y a aussi dans le domaine de la forme, la manière de faire, la manière de parler, donc la méthodologie, la méthode de travail. La femme a une vision souvent plus englobante, moins spécialisée, peut-être moins précise, vous voyez, moins synthétique, moins précise sur tel ou tel aspect, mais par contre, embrassant le mystère dans l'unité, plus englobante. Une femme ne peut pas séparer de manière absolue, par exemple, la rigueur de la recherche, mais aussi la dimension affective, la mobilisation de toute la personne qui va avec, jusque dans sa sensibilité. Et donc, face à un siècle, une époque qui valorise de manière exponentielle la méthode scientifique, l'objectivité de la mesure et de la méthode scientifique, et qui influence la théologie, la femme, la présence d'une femme, alors que ce soit dans un studium de théologie ou que ce soit dans un monde clérical, dans un dicastère ou ailleurs, va souvent aider, vous voyez, à équilibrer cette rigueur de la recherche et cette spécialisation parfois extrême sur tel ou tel aspect du dogme, par le cœur, quoi, de rappeler qu'on parle à des personnes et que je ne peux pas séparer la vérité magnifiquement formulée de mon texte des destinataires auxquels elle s'adresse et que je dois aussi prendre en compte dans ma manière de parler l'ensemble de la personne que j'ai en face, pas seulement son intelligence, pas seulement une vérité théorique, mais la personne à laquelle je parle. Donc il y a une pédagogie souvent différente, une manière de faire souvent différente. Encore une fois, on n'est pas dans l'ordre du mieux ou du moins bien, on est dans l'ordre d'une complémentarité féconde. Le troisième domaine, évidemment, dans lequel on voit aussi déjà beaucoup de fruits, de progrès, le domaine spirituel. Alors, parfois, certains trouvent ça évident, normal, et on est encore très en retard. D'autres sont encore un peu gênés de voir des femmes présentes parfois dans l'accompagnement spirituel, ou dans le fait de donner, de prêcher des retraites. Moi, je suis invitée à donner des retraites. En général, c'est des prêtres qui prêchent, pas des femmes. Ben, vous assistez là de récemment à une place plus grande de la femme dans l'ordre de la nourriture de la vie spirituelle, que ce soit par des retraites données à un public collectif, ou que ce soit dans l'ordre de l'accompagnement personnel des personnes. Alors on a oublié que dans les premiers siècles, l'accompagnement spirituel, la paternité spirituelle ou la maternité spirituelle n'était justement pas lié au sacrement de l'ordre. C'était lié à quoi ? À la maturité spirituelle, à l'ancienneté. Le père ou la mère spirituelle, chez les pères du désert, les premiers siècles, c'est l'ancien, celui à qui on sait qu'on va pouvoir confier son âme parce qu'il a réellement fait un bout de chemin de plus que nous dans la vie spirituelle. Et c'était un homme ou une femme, très souvent des moines ou des moniales laïques. Et donc petit à petit, on a bloqué la paternité spirituelle avec le sacrement de l'ordre. Eh bien, à l'origine, pendant des siècles et des siècles dans l'Église, il n'en était pas ainsi. On allait confier son âme à celui qui en avait reçu non pas une grâce par mode d'ordination, mais par charisme. Le Seigneur donnait à certains un charisme de connaissance des âmes, d'accompagnement des âmes, et puis surtout un charisme, reçu et entretenu par sa propre intériorité, sa propre maturité spirituelle. Donc là, il y a quelque chose aujourd'hui qu'on remet un petit peu en lumière dans ce domaine-là. Vous voyez, évidemment, un jeune homme, dès son ordination presbytérale, c'est mon père. Mais mon père a 25 ans, vous voyez, c'est... Bah, oui, bien sûr, on croit dans la grâce de l'ordination, mais un jeune prêtre de 25 ans ou de 30 ans, on ne peut pas lui demander... Oui, il y a la grâce du sacrement, mais on ne peut pas lui demander d'avoir 40 ans d'expérience de prière et de vie spirituelle et d'accompagnement derrière lui. Donc là, il peut y avoir aussi une belle complémentarité entre une paternité spirituelle liée au sacrement de l'ordre, notamment justement par la grâce du sacrement reçu par le prêtre, par le père qui accompagne, mais aussi des sacrements qu'il peut donner dans le cadre de l'accompagnement, notamment la confession, l'Eucharistie, mais aussi une certaine forme d'accompagnement spirituel, voire de paternité, de maternité spirituelle, remplie par des laïcs, et donc aussi par des femmes, recevant vraiment de Dieu un charisme, une grâce pour ça. Là encore, vous voyez, il ne s'agit pas d'exclure l'un au profit de l'autre, mais de profiter de toute la richesse des dons de Dieu. Quatrième domaine, la pastorale. Alors ça, c'est plus évident, hein. Les femmes ont toujours été très présentes dans la vie pastorale, que ce soit le catéchisme, le monde de l'éducation, la visite des malades, les mourants. Enfin. Ceci étant, on n'a pas encore, peut-être dans le domaine de la pastorale, les femmes étaient présentes sur le terrain, et elles ont une grâce irremplaçable sur le terrain, notamment à l'égard des plus pauvres, des plus petits, de former des petites communautés discrètes, vous voyez, au sein, par exemple, de quartiers défavorisés, des lieux où des hommes peut-être ne pourraient pas vivre, ou moins facilement. Donc une présence sur le terrain extraordinaire, irremplaçable, maternelle. Mais peut-être un apport encore insuffisant des femmes dans l'ordre de la réflexion pastorale. C'est bien d'être sur le terrain et de servir les personnes individuelles, mais il y a un regard féminin sur la pastorale, ce qui serait important, ce qui serait prioritaire dans notre paroisse, dans notre diocèse. C'est même pas de l'ordre d'une responsabilité. Il ne s'agit pas d'être directrice de ceci ou présidente de cela, mais d'avoir une voix, qu'un prêtre, qu'un évêque sache s'entourer de laïcs, hommes et femmes, qui vont avoir sur la vie du diocèse, la vie de la paroisse, les priorités sur un quartier, un autre regard que le regard de l'évêque ou du prêtre, évidemment, qui ne voit pas tout, qui n'a pas les mêmes priorités. Donc là, on n'a certainement pas encore garanti à la femme, aux femmes, une place suffisante, vous voyez, dans tous les organes de réflexion. Encore une fois, on n'est pas dans l'ordre du gouvernement, hein, mais on est dans l'ordre des phases des organes de réflexion, de qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année dans notre paroisse, hein. Conseil pastoral, on réfléchit, on choisit des priorités, on les organise, on les met en œuvre. Il y a des femmes qui ont des talents d'organisation et de mise en œuvre de certains événements diocésains ou paroissiaux extraordinaires et qui vont organiser différemment d'un homme. Et quand vous avez une femme et un homme ensemble, bah ça va frotter à certains moments parce qu'ils vont voir les choses différemment, mais s'ils arrivent à fonctionner ensemble, ça va donner un résultat magnifique. Et cinquième domaine, donc là aussi, lié à la pastorale, mais pas seulement, alors là, c'est vraiment ce qui relève proprement des responsabilités, des postes de responsabilité reconnus, des responsabilités administratives notamment, hein, où le synode de 2015 sur la famille, hein, avait aussi accentué le rôle des femmes et disait notamment, pour contribuer à la reconnaissance sociale du rôle déterminant des femmes, on pourrait valoriser davantage les responsabilités des femmes dans l'Église. Leur intervention, alors voilà différents exemples, leur intervention dans les processus décisionnels, leur participation au gouvernement de certaines institutions, leur implication dans la formation des ministres ordonnés. Alors que ce soit l'enseignement directement, les cours, ou que ce soit dans l'accompagnement des personnes, hein, dans la vie du séminaire, un regard sur le discernement des vocations, un service des personnes, tout simplement. Donc là, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne reprends pas, mais le pape François a déjà fait beaucoup, hein, pour introduire des regards, des voix, des talents féminins au sein d'organes, par exemple de la curie romaine, qui était jusqu'alors exclusivement cléricaux. Pas seulement exclusivement masculin, mais exclusivement cléricaux. Donc aujourd'hui, on introduit des laïcs, hommes et femmes, qui apportent vraiment quelque chose. Donc bon, peut-être je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète rapidement, hein, notamment le fait que plusieurs femmes aient été nommées à la Commission théologique internationale, qu'une femme ait pu être mise à la responsabilité doyenne, je crois comment on dit, présidente doyenne, d'une université de théologie pontificale à Rome, des postes comme ça, la place des femmes dans les dicastères. Encore une fois, il ne s'agit pas de revendiquer la parité, hein, autant de prêtres, autant de laïcs non prêtres, autant de femmes non prêtres, etc., mais vraiment de s'enrichir de tous les talents possibles que l'Esprit Saint met dans l'Église. Je suis désolée parce que j'ai pas beaucoup de temps de vous laisser la parole et de vous faire réagir par des questions, mais ça sera en dehors, hein, si vous voulez bien. Ou alors je m'arrête, mais vous n'aurez pas la fin. Alors, dans la demi-heure qui nous reste, je voudrais, parce que ça me... Bon, c'est pas... Je voudrais reprendre ce que j'avais fait à la fin, la dernière fois, et le poursuivre, revenir à la figure de Marie. Parce que là aussi, bon, on a regardé la Genèse, j'ai cité des choses dans l'Évangile, mais il me semble qu'on ne peut pas contourner la figure de Marie telle qu'elle nous est présentée dans la Révélation comme un chemin privilégié pour comprendre plus avant le mystère féminin, le signe de la femme. Puisque ce signe de la femme, je vous disais, c'est le signe de l'Église elle-même, hein, de la vie baptismale appelée à répondre au don du Christ époux. Donc, tout à l'heure, je disais rapidement qu'un des domaines sur lesquels les critiques à l'égard de Jean-Paul II s'étaient cristallisées, c'était d'avoir enfermé, d'avoir présenté la Vierge Marie comme le modèle de la femme, et donc d'avoir finalement proposé à la femme une espèce d'idéal, la Vierge et la Mère. Alors c'est la femme vierge, prude, pudique, ou la mère au foyer qui ne sort pas de la, et qui est la servante silencieuse. On a reproché ça à Jean-Paul II. Il me semble que la figure de Marie, telle que, et de nombreuses études justement en théologie mariale, voilà encore un domaine sur lequel la théologie a progressé de manière magnifique depuis 50 ans. Hein. La figure de Marie est d'une ampleur, d'une richesse et d'une force. Hein. C'est pas seulement la petite Vierge de Nazareth qui attend silencieusement que Joseph rentre à la maison. Hein. Une ampleur, une force de la figure mariale qui est bien, bien mieux mise en lumière aujourd'hui. Je vous conseille, c'est un article à paraître, pas encore paru, mais que j'ai relu avant sa parution, dans la revue Vie consacrée, donc dans le prochain numéro qui va paraître le 15 octobre, donc c'est le 2024. 15 octobre, vous avez un très très bel article d'Anne-Marie Pelletier, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, une juriste théologienne reconnue, qui a été nommée, je ne sais plus quel enseignement, quelle retraite au Vatican, et qui fait maintenant partie de la deuxième commission d'études sur le diaconat féminin, là, qui est instituée par le pape François. Et alors, elle a écrit un très bel article qui s'appelle « Réinterpréter la figure de Marie ». Et qui est exactement dans la ligne de ce que je vous dis. Elle montre comment pendant des siècles on s'est servi d'une figure de Marie compris de manière très réductrice finalement pour maintenir la femme, vous voyez, dans une sorte de modèle féminin d'assujettissement et de certaines qualités réputées féminines qui en fait sont une trahison, une vraie trahison du mystère de Marie. C'est un bel article. Vous voyez, quand on voit... Alors oui, il y a Marie qui médite et qui garde tout dans son cœur. Son article commence comme ça. Oui, il y a cet aspect-là, avec toutes les qualités de silence, d'intériorité, de douceur, d'intériorisation de la parole de Dieu. Bien sûr, ce sont des qualités mariales, féminines, etc. Et à côté de ça, vous avez la force du Magnificat, qui est un chant, une proclamation de louange, dont le contenu, vous voyez, c'est un chant guerrier, quoi. Hein. là aussi, ceux qui vont faire le séminaire sur Saint-Luc, on va voir le Magnificat, une parole féminine qui finalement proclame la justice sociale, revendique le droit des pauvres, des humiliés, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Donc le Magnificat, c'est un chant qui non seulement assume, vous voyez, toutes les figures féminines de l'Ancien Testament et la mémoire de toutes les interventions fortes de Dieu en faveur des pauvres, mais c'est un chant féminin, marial, qui est, on pourrait dire, l'équivalent aujourd'hui d'une prise de parole publique, vous voyez, pour dénoncer toutes les injustices sociales et rappeler la prééminence, la présence, la majesté, la gloire due à Dieu dans ce monde qu'il oublie, et rappeler le droit des pauvres, le droit des petits, la dignité de chaque personne qui n'a pas à être écrasée par le puissant ou par le riche. Il y a aussi ça dans la figure de Marie, hein. Derrière laquelle, évidemment, vous avez toutes les figures féminines, Esther, Judith, Déborah, Yaël, toutes ces femmes fortes de l'Ancien Testament. Alors, la dernière fois, je reviens un petit peu à ce qu'on avait vu, j'avais regardé davantage Marie dans Saint Jean. J'avais à peine commencé Cana, et je voudrais reprendre un peu ce parallèle entre les noces de Cana, le troisième jour à Cana de Galilée, hein, et puis la présence de Marie à la croix, et voir comment la révélation, là encore, nous en donne, à partir de ces épisodes, des richesses, des lumières, peut-être pour approfondir notre compréhension de la grâce de la fin. Alors, je passe un peu vite sur Cana, parce que j'avais déjà bien commencé. Hein. Et alors, j'ai fait la grosse bêtise aujourd'hui de ne pas avoir le texte avec moi. Je cite de mémoire, mais... Vous êtes peut-être des meilleurs théologiens que moi, vous avez peut-être tous une Bible avec vous, que j'aurais évidemment dû, merci Valérie, que j'aurais évidemment dû apporter. Donc le troisième jour, hein, Saint Jean chapitre 2, nuit des noces, à Cana de Galilée. Donc, le troisième jour, j'en reparlais pendant la pause avec l'une d'entre vous, le troisième jour, c'est déjà une évocation de quantité, vous voyez, de passages bibliques, en amont et en aval, hein. Le jour de la résurrection, pensez à Osée, hein, il nous a blessés, le troisième jour il nous guérira, etc. Le troisième jour il y eut des noces à Cana de Galilée. Le point important c'est, et la mère de Jésus y était. Elle est présentée d'abord comme la mère de Jésus, et surtout elle est mentionnée en premier, elle y était. Alors j'ai pas insisté là-dessus la dernière fois, mais quand on dit elle y était ou elle était là, c'est pas juste elle était là, quoi. Quand Marie est là, elle est vraiment là. Mais ce n'est pas juste, elle était là, c'est, elle était présente au sens fort. Et c'est ce que l'épisode va montrer, c'est elle qui intervient, c'est elle qui voit, qui prévoit, qui anticipe le manque, qui réagit, qui va trouver Jésus, qui met les serviteurs de vin en relation avec Jésus. Donc quand l'évangéliste dit que Marie était là, ce n'est pas juste, vous voyez, pour qu'on l'imagine dans le décor, c'est... Elle était là à 100%. Elle est le personnage à partir duquel tout va commencer. Elle est présente à ce qui se vit. Et qu'est-ce qui se vit? C'est des noces humaines. Donc un événement humain par excellence. Il y a la célébration de la fête de l'amour au cœur d'un village. Célébrer l'amour d'un couple humain qui s'unit. Donc un événement de nouveau nuptial. Hein. Ben, c'est pas pour rien que Jésus fait son premier signe dans un mariage, pour dire quand même, changer de l'eau en vin comme miracle, enfin vous voyez, c'est ressusciter un mort, oui, faire voir un aveugle, mais changer de l'eau en vin, ça paraît un peu anecdotique par rapport à la vie, enfin vous voyez, aux nécessités vitales. Et ben non, symboliquement, pourquoi c'est le premier des signes, hein, changer de l'eau en vin quand on manque de vin dans la célébration de l'amour, c'est venir au secours. Pour que l'amour humain ne périclite pas. Il est venu sauver l'amour humain. Il est venu donner du vin, c'est-à-dire faire en sorte que l'amour du cœur de l'homme qui est toujours en train de tarir, vous voyez, ne tarisse pas. Donc c'est pas pour rien que le premier signe a lieu au cœur des noces, et c'est pas pour rien que l'évangéliste nous dit, et Marie était là, la mère de Jésus était là. On ne l'appelle pas Marie. Saint Jean ne... Si on n'avait que l'évangile de Jean, on ne saurait pas qu'elle s'appelle Marie. Il n'y a pas le nom de Marie dans l'évangile de Jean. Donc la mère de Jésus. Donc Donc ce qui est magnifique, c'est qu'elle est citée avant Jésus et avant les disciples, comme si sa présence à elle avait quelque chose d'irremplaçable. Et puis, donc, je vous le disais la dernière fois, je ne reprends pas tous les détails, hein. Ce qui est magnifique, c'est que c'est donc elle qui repère le manque. Il y a une grâce féminine. C'est la femme qui va repérer les manques de vin dans l'humanité d'aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les misères humaines, tout simplement. Les souffrances, les misères humaines, les manques, les choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'ose pas présenter à Dieu, qu'on n'ose pas présenter à Jésus. Il y a une intercession maternelle de la femme pour présenter à Dieu tous les manques de vin du monde d'aujourd'hui. Et quand je dis de la femme, encore une fois, hein, c'est tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est pas comme si l'homme en était incapable, hein, mais c'est au sens où ça fait partie de ce signe de la femme devant éveiller chez tous les baptisés, chez tous les hommes, cette attention aux misères, au manque de vin. Quelque chose que la femme vit de par ses qualités naturelles, spirituelles, de manière éminente, mais qu'elle est chargée de pas d'enseigner, parce qu'on n'est pas de l'ordre de l'enseignement, hein, mais un chemin qu'elle parcourt la première pour que tous le parcourent avec elle. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc il y a un rôle de médiatrice, bon, d'abord un rôle de repérer les manques. Marie voit les manques, les disciples étaient sûrement attablés à boire et à manger avec tous. Marie voit, Marie va trouver Jésus. Donc, première réaction, aller trouver Jésus pour présenter les manques de vin. Donc une, à la fois une délicatesse, une attention à la souffrance de l'autre et un réflexe, une réaction première de se tourner vers Jésus dans la prière. Marie ne cherche pas à résoudre par elle-même le problème, elle le présente pauvrement à Jésus, elle ne lui dit pas fais ceci, fais cela, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de vin. Donc c'est la grâce de la femme de présenter dans la prière, dans l'intercession à Dieu les manques, de telle sorte que les noces restent les noces, c'est-à-dire de telle sorte que la célébration reste une célébration de la fête et pas que ça tourne en catastrophe, le mariage était raté, parce qu'on a manqué de vin. Terrible, manquer de vin en Israël, enfin c'est, vous voyez, que des noces se terminent comme ça, ça fait mauvais effet quand même. C'est la honte pour les mariés, chacun retourne chez lui, après on ne parle plus que de ça dans le village, enfin c'est horrible quoi. Horrible, et pour le mari, et pour ceux qui étaient chargés d'organiser. Enfin, et Marie fait en sorte que, de manière complètement discrète, la catastrophe soit évitée. Il y a une grâce irremplaçable de la femme dans la célébration liturgique, pas comme ministre à l'autel, mais pour que la célébration reste une célébration. Ou acquiert, vous voyez, la beauté d'une célébration. J'ai dit ça la dernière fois, je crois. Toute une place irremplaçable pour que l'Église ne soit pas juste une institution ou un distributeur des sacrements, que le truc soit fait, mais que ce soit réellement un climat de noces, une famille, un milieu aimant, vivant, dans lequel les personnes ne sont plus juste une communauté anonyme, mais un rassemblement où chacun se sait accueilli, désiré, connu. Donc là, il y a certainement une grâce particulière de la femme, encore une fois, ça ne lui est pas réservé, mais si elle ne le fait pas, les hommes n'apprendront pas à le faire, les prêtres non plus, pour faire en sorte que la liturgie soit belle, que l'Église soit accueillante, qu'il y ait des fleurs, des chants, un accueil des personnes. Et le prêtre ne peut pas faire ça, et certainement pas tout seul. Par contre, ça va être l'écrin, hein, écrin, réceptacle, lieu, milieu, je reviens au Nekeva de tout à l'heure, hein, l'écrin dans lequel le prêtre va pouvoir célébrer. C'est important. Donc ça, je crois que ça, à l'image de Marie, la femme, mais aussi tout baptisé, hein, à cette mission essentielle de servir la communion des personnes. C'est ça qui se passe à Cana, hein, que la joie des noces ne soit pas assombrie. Il y a une communion dans la joie de la fête qui est alimentée par cette délicatesse de Marie. Donc une attention discrète, hein, au manque de vin, aux besoins des hommes d'aujourd'hui, et surtout une capacité à les mettre en relation avec Jésus. Et souvent, la femme, ou de manière plus large le baptisé, sacerdoce baptismal, peut toucher des personnes que le prêtre ne touchera pas. Par sa présence au cœur du monde, dans le monde de la famille, dans le monde professionnel, dans la vie sociale, les baptisés ont un rôle irremplaçable pour, comme Marie à Cana, aller trouver les serviteurs de la noce, les mettre en lien avec Jésus, les amener à l'église. La femme est celle qui va conduire au prêtre. Elle ne va pas prendre sa place, mais elle va souvent être la première oreille, enfin quand je dis la femme, encore une fois le baptisé, hein, le laïc, homme ou femme, va être souvent le premier à entendre les questions concernant l'église, ou les questions au sujet de Dieu, ou quelle est la place de Dieu dans ma souffrance, pourquoi Dieu n'écoute pas quand je prie. Vous voyez, des questions qu'on va avoir comme ça autour d'un café, ou d'une rencontre dans la rue, ou au sein de la famille, ou dans le monde de l'école ou autre. C'est des baptisés qui vont d'abord être appelés à entendre toutes les questions spirituelles que se posent les hommes d'aujourd'hui, et qui vont avoir un rôle de médiateur pour les conduire ensuite à l'église et peut-être au prêtre. Combien de fois ça arrive dans un pèlerinage de jeunes qu'un jeune qui ne s'est pas confessé depuis 5 ans aille d'abord parler à une religieuse avant d'aller parler au prêtre? Vous voyez, il y a une médiation. Une médiation, c'est normal. C'est ce que fait Marie à Cana. Vous voyez, elle est comme un pont entre les serviteurs, entre la noce et Jésus, entre les serviteurs de vin et Jésus, entre l'homme et Dieu. Donc une mission d'intercession, de médiation. Et puis évidemment, alors je regarde maintenant la place de Marie à la croix, la place assez unique de la femme dans la fidélité dans l'épreuve, la femme debout dans l'épreuve. Là où la force de l'homme est plus une force, vous voyez, dans la conquête, dans le fait de une masse musculaire capable de se mobiliser et de donner un coup de force dans le combat, la force de la femme est plus une force dans la résistance dans l'épreuve. Et parfois, c'est grâce à la persévérance, la solidité de la femme à tenir dans l'épreuve, que l'homme ne s'écroule pas. Vous voyez, nous avons deux forces complètement différentes. Il y a la force d'attaque, de combat, de conquête, hein, et puis il y a la force de tenir, de résister, de pâtir sans craquer. Et là, il y a une place de la femme irremplaçable auprès de son mari, auprès du prêtre, aussi, en pâtir dans l'épreuve, ou parfois des périodes de découragement, d'écroulement d'un prêtre qui va être relevé par une persévérance, une force féminine. C'est très important. Alors Marie présente à la croix, là où tous les disciples ont déserté les uns après les autres. J'entends un sauve Jean discret quelque part, le disciple que Jésus aimait, caché. Vous remarquerez qu'il n'est pas près de la croix, lui. Hein. Il est près de Marie, qui est près de la croix. Hein. Comme si, justement, il ne pouvait pas tenir à la croix sans Marie. Si on reprend la précision du texte, hein, en Jean 19. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et puis il y en a d'autres, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Hein. Et ensuite, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple que Jésus aimait. Il ne tient à la croix, ce disciple, que parce qu'il est près de sa mère, près de Marie. Vous voyez, une illustration de ce que je vous disais à l'instant. Comme s'il s'abritait dans le stabat, elle se tient debout, hein, debout près de la croix. Comme si le disciple, et donc à travers lui tout le ministère ordonné, hein, se tenait à la croix avec Marie, hein, près d'elle. Qui est près de la croix. C'est pour ça que toutes les icônes où on représente la croix, et puis d'un côté Jean et de l'autre côté Marie, c'est pas fidèle au texte évangélique, et théologiquement et spirituellement, c'est dommage. Ils sont pas, vous voyez, ils sont pas à équivalent chacun d'un côté de la croix. À la croix, le prêtre ne se tient debout que parce qu'il y a Marie, la femme. En tout cas, c'est ce que nous présente l'évangéliste Jean. Et c'est pas pour rien. Alors, première question qu'on pourrait se poser, pourquoi Jésus a-t-il choisi, l'extrême limite, le moment dramatique de la croix juste avant sa mort, pour confier sa mère au disciple bien-aimé et le disciple bien-aimé à sa mère? Il aurait pu faire ça paisiblement au cours d'un repas, enfin, oui, dans un climat plus que dans ce drame de la croix. Ben, là aussi, rien n'est anodin dans la révélation. Je suis désolée, Valérie, je te prive de ta vie. Donc Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, il n'est pas nommé, puisque c'est chacun de nous, c'est chaque baptisé, il dit à sa mère, femme, voici ton fils, donc femme, comme à Cana, on dit, il la regarde pas seulement comme sa mère, mais comme la femme, c'est-à-dire celle qui lui est associée, intimement associée, dans son œuvre de nouvel Adam. Là encore, le symbolisme nuptial est présent chez Jean. Il y a les noces de Cana, et puis, c'est pas dit comme ça, mais c'est les noces de la croix. C'est le lieu où le Christ épouse se donne jusqu'au bout pour son Église épouse, et où Marie est présente à ses côtés, associée à son œuvre de rédempteur. Je dis pas co-rédemptrice, parce que le mot, alors, il pourrait avoir une acception juste, mais il pourrait avoir aussi, et c'est ce qu'il a en général, une compréhension ambiguë, elle n'est pas co-rédemptrice comme si elle était, vous voyez, moitié-moitié, ils accomplissaient chacun. Non, le Christ est l'unique rédempteur de l'homme. Mais elle est co, au sens où elle est associée, au sens où le don demande à être reçu. Que le Christ époux se donne, c'est une chose, et l'efficacité, si on regarde la rédemption en termes d'efficacité, le Christ a tout donné, le Christ a tout fait, il a racheté le monde, il est l'unique sauveur. Mais si le don n'est pas reçu, et si le don n'est pas pleinement reçu au sens de, pas seulement d'un spectateur qui voit que ça s'est passé, mais reçu, assimilé, vécu, consenti par le cœur de Marie, eh bien, il y a toute une part qui se perd. Alors, c'est le sens de la présence de Marie à la croix. Elle est pas seulement spectatrice de ce qui se vit, mais associée comme la nouvelle Ève au nouvel Adam pour que le mystère nuptial de la croix soit pleinement accompli. Et alors, qu'est-ce qui lui revient en propre? Alors, elle accueille le disciple bien-aimé, comme son fils, mais elle l'accueille à ce moment-là, c'est-à-dire que ce que Jean, je l'appelle Jean pour faire en bref, mais le disciple bien-aimé, que la tradition Jean, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Donc tout ce qui nous est dit dans la suite de la révélation, il le vit comme fils de Marie. Il le vit en ayant Marie pour mère. Et qu'est-ce qu'il vit juste après? Après quoi? Dès cette heure-là, le disciple accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». La première chose que le disciple bien-aimé vit, en n'étant plus seulement Jean, mais en étant fils de Marie, donc enfanté par Marie à un regard de sagesse sur ce qui se vit à la croix, pris dans le regard que Marie a à la croix, c'est le cri de soif de Jésus. Comme si Jean ne pouvait pas entendre, et pas seulement entendre, vous voyez, mais rapporter dans son évangile le cri de soif, il est le seul des quatre évangélistes à le rapporter. Il l'a entendu, il l'a reçu, il l'a compris, comme Marie l'a compris. Il l'a reçu en étant pris, en ayant reçu Marie pour mère. Donc il reçoit ce cri de soif de Jésus, pas seulement comme le cri de soif, vous voyez, d'un crucifié qui est réellement en train de mourir physiquement de soif, mais comme au sens fort, ce que cette soif exprime, c'est-à-dire une soif infinie d'aimer, une soif infinie de rencontrer le cœur de l'homme, et que même la mort de Jésus sur la croix n'épuise pas. La mort même de Jésus ne suffit pas à dire tout l'amour de Dieu pour l'homme. C'est comme ça que Marie reçoit ce cri de soif, c'est comme ça que la tradition, les pères de l'Église l'ont compris. Et Jean le rapporte dans son évangile parce qu'il a compris que ce n'était pas une parole anodine. Et il l'a compris avec Marie, par Marie. Et puis la deuxième chose qui se passe après, c'est le coup de lance, qui là aussi n'est rapporté que dans l'évangile de Jean. Cette dernière blessure qui atteint le cœur, le corps, le cœur de Jésus déjà mort, un geste d'un soldat qui veut s'assurer qu'il est déjà mort, fait ça pour ne pas avoir à lui briser les jambes comme on le faisait habituellement pour les condamnés quand on voulait hâter l'heure de la mort, mais voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. non seulement le quatrième évangile est le seul à le rapporter, mais on a l'impression que tout son témoignage est fondé là-dessus. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Celui-là, c'est qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyez. Vous voyez, donc une sorte d'insistance qu'on pourrait penser complètement disproportionnée, hein, sur cette blessure du côté de Jésus qui advient après la mort. Vous voyez, mais tout est fini, quoi. Enfin, c'est déjà. Pourquoi l'évangéliste prend-il autant de soin à rapporter ce dernier geste, hein, en disant et je témoigne pour que vous aussi vous croyez. Ça veut dire que Jean, avec Marie, par le regard de Marie certainement, hein, par la compassion de Marie à la croix, a compris que cette blessure ultime, hein, du corps de Jésus, du cadavre de Jésus qu'on n'a même pas respecté, était encore un geste de révélation. Comme si Jésus, qui ne peut plus rien dire, qui ne peut plus rien faire parce qu'il est déjà mort, nous disait silencieusement encore quelque chose jusque dans la mort. Son cœur s'ouvre. Il ne peut plus dire qu'il nous aime, mais son cœur peut encore saigner et pleurer. Il en jaillit du sang et de l'eau. Donc le geste même qui, vous voyez, au niveau factuel, est un geste horrible d'un soldat romain qui va blesser le cœur d'un crucifié déjà mort, en fait, lu dans le regard de sagesse de Dieu, c'est un geste de révélation que seul le cœur d'une femme, seul le cœur de la mère de Jésus pouvait comprendre. Au-delà, j'allais dire, du caractère horrible, il fallait le cœur de Marie pour lire dans ce côté ouvert, blessé de Jésus, dont il jaillit le sang et de l'eau, la déclaration d'amour silencieuse de Dieu jusque dans sa mort. Et sur la déclaration d'amour sur laquelle l'évangéliste Jean va baser tout son témoignage. Donc peut-être aussi pour nous dire, je reviens sur le signe de la femme, hein, qu'il fallait cette présence de Marie à la croix pour recevoir, hein, et pour offrir à Dieu, au Père, cette dernière blessure. Et Jésus ne peut pas offrir. Jésus s'est offert lui-même à la croix, il a tout offert, hein, librement. On pourrait dire toutes les blessures qui l'ont atteint pendant sa passion, les crachats, la couronne d'épines. Il a tout offert au Père par amour pour nous. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas offrir. C'est la blessure qui l'atteint quand il est déjà mort. Hein. Cette blessure-là, c'est Marie qui va l'offrir. Comme si, vous voyez, elle était la première à faire ce que saint Paul dira dans la lettre aux Colossiens, 1:24, hein, cette parole mystérieuse. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ, hein, pour son corps qui est l'Église. Bah, au niveau de l'efficacité, il ne manque rien à la passion du Christ. Il a sauvé tout l'homme et tous les hommes par sa passion. Au niveau de l'efficience, il ne manque rien. Mais il manque, encore une fois, à ce que ça soit accueilli, reçu et vécu dans l'Église elle-même, hein, par chaque croyant, que la passion du Christ puisse continuer à être vécue en moi. Ben Marie est la première à vivre ça à la croix. Et notamment, alors par sa propre souffrance, son cœur de mère broyé devant la mort de son fils, hein, mais aussi parce qu'elle est celle, c'est vraiment une offrande sacerdotale, vous voyez, mais du sacerdoce royal qui est le sien, hein. Elle offre au Père cette dernière blessure absurde, inutile, qui atteint le cœur de Jésus alors qu'il est déjà mort et qu'il ne peut pas offrir lui-même. Il y a certainement une grâce de la femme particulière pour offrir à Dieu, pour voir, pour compatir et pour offrir à Dieu les blessures de notre monde qui semblent les plus désespérées, les plus inutiles, les plus... Pensez à une mère Teresa, vous voyez, qui n'a pas comme projet d'abord de fonder des hôpitaux capables d'accueillir des milliers de malades, mais qui s'arrête auprès d'un mourant dans la rue, en sachant très bien qu'elle ne va pas lui éviter de mourir, mais juste pour qu'il ait quelqu'un qui lui sourie, qui lui tienne la main, et qui soit présente à son côté pendant qu'elle ne peut rien faire pour le sauver. C'est un pauvre, déjà à moitié mangé par les vers, mais qui meurt avec, vous voyez, le sourire de cette petite femme, de cette petite religieuse de rien du tout, qui s'est arrêtée, qui lui a tenu la main. Donc, Mère Teresa, ce n'est pas d'abord voyez, des œuvres grandioses de milliers de malades ou de mourants, et autres, mais c'est le face-à-face avec chacun. Offrir à Dieu, voilà, accompagner, être présent quand un homme est en train de mourir et offrir à Dieu sa souffrance pour que la dernière chose qu'il voit en mourant soit le visage, le sourire de quelqu'un qui a reconnu sa dignité. C'est ce que nous montre Marie à la croix. Il y a certainement aussi une grâce particulière de la femme dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, de savoir rester présente sur tous les lieux d'épreuve, les lieux de compassion, les lieux de miséricorde, où on ne cherche pas d'abord à éviter à l'autre la souffrance ou la mort, quand on ne peut rien faire pour le sauver. Marie, vous voyez, la compassion, c'est pas de chercher à nécessairement à sortir l'autre de sa souffrance. Souvent, c'est d'être là avec lui, parce qu'on ne peut pas lui épargner la souffrance. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Quand on peut les soulager, c'est très bien. Mais quand on ne peut pas les soulager, 9 fois sur 10, on fait quoi? On s'en va. Parce qu'on ne supporte pas d'être impuissant face à la souffrance de l'autre. Il y a des personnes à l'hôpital qu'on arrête d'aller voir parce qu'on en est malade de rien pouvoir faire pour elles. Alors qu'en fait, ils ne demandent pas d'abord qu'on puisse... qu'un visiteur puisse les guérir d'une maladie incurable. Ils demandent juste de continuer à être considérés comme des personnes malades à qui on rend visite et avec qui on va pleurer peut-être, râler peut-être, crier contre Dieu peut-être, mais en étant là. Arrêter d'aller voir quelqu'un parce qu'en fait on ne sait plus quoi lui dire, parce que sa souffrance est insupportable et qu'on se sent tellement stupide d'aller bien quand lui va mal, ben c'est terrible, quoi. Marie est présente à la croix. Elle ne cherche pas à descendre Jésus de la croix, à lui épargner la souffrance. Et comme la mère des 7 Maccabées, hein, la vraie compassion, c'est un acte de force. Hein, c'est pas juste, ah oui, mon pauvre petit, tu souffres injustement et tu n'as rien fait pour mériter ça. Et les gens ont été tellement méchants avec toi et si je pouvais, je te... Non. Pensez dans le deuxième livre des Maccabées, hein, à cette mère admirable de Maccabées, chapitre 7. Hein, qui encourage chacun de ses fils avec un mâle courage, nous dit le texte. Oui. Vous voyez, reste fidèle, mon enfant, toi que j'ai porté 9 mois dans mon sein, que j'ai éduqué, que j'ai sevré, qui t'ai mené jusqu'à l'âge où tu es, ne refuse pas la souffrance, ne renie pas ton Dieu face à la mort. Elle les exhorte, j'allais dire, d'une manière héroïque, incroyable, hein, à aller jusqu'au martyr. Et elle meurt après ses 7 fils, la dernière, vous voyez, dans la force de la femme dans l'épreuve. Voilà, je m'arrête là. Je vous demande pardon pour tout ce qui est peut-être trop rapide, schématique, incomplet. Ça n'a d'autre ambition que, vous voyez, d'être une parole qui éveille des discussions, voire même des objections, des approfondissements, hein, et pas du tout une parole conclusive. Recevez ce que j'ai dit plutôt comme un commencement, hein, plutôt comme quelque chose à classer. Je pense que vous savez tous, mais en tout cas pour ceux qui le souhaitent, il y a donc une messe à 12h à Notre-Dame de Vie, à la chapelle Saint-Émer ancienne. Si quelqu'un souhaitait y aller et n'avait pas prévu, je pense qu'il y a des possibilités de s'arranger dans les voitures. Hein, mais, voilà, n'hésitez pas à le dire.
Merci beaucoup. La session de samedi, elle est ouverte au public.